On vous l'avait dit un petit peu plus tôt qu'on allait avoir de la belle visite tout au long du show. Ce matin, ça a commencé très tôt à 6h30. Ça va se finir tout près de 10h. Et en ce moment, on accueille en studio, toujours un plaisir de lui parler, Gérard Deltel du Parti conservateur du Canada. Il est le député sortant de Louis-Saint-Laurent, Attikawenhack. Je me suis pratiqué, Monsieur Deltel, depuis notre dernière visite, avec l'aide de quelqu'un qui travaille au Wendake, qui m'avait envoyé ceci.
Attikawenhack.
Je viens de le faire jouer de l'ordinateur, vous n'aviez pas vos écouteurs, mais voilà. Attikawenhack.
Bravo, félicitations pour ce souci. Et j'avoue que c'est une des premières entrevues que j'ai faites pendant la campagne, c'était à votre micro. Et je pense qu'il n'y a pas une seule entrevue où je n'ai pas eu à expliquer Attikawenhack. Et c'est extraordinaire d'ailleurs. Ça donne la chance et l'opportunité de parler des Wendat, de parler de Wendake, de parler de l'extraordinaire contribution de Wendake pour la grande région de Québec. Et on en est très fiers.
Et qui veut dire truite. En passant, c'est l'autre chose que j'ai apprise justement à ce sujet. Monsieur Deltel, comment vous allez en ce 24 avril, dernier blitz, je le disais tantôt, et journée ensoleillée à 18 degrés lundi pour le jour du vote,
ça,
donc
c'est
ça
parfait.
S'en vient à grands pas. Comment est la confiance pour vous, pour le parti, pour les journées à venir?
C'est toujours agréable parce que c'est sûr, quand on aime la politique, puis comment, parce que la politique, c'est rencontrer du monde. Hein. S'il n'y a pas de monde, il n'y a pas de politique. Alors en politique, quand tu rencontres du monde, puis tu le fais de façon intensive pendant la campagne électorale, bien, c'est très agréable. D'ailleurs, René Lévesque, qui n'était pas un politicien politicailleux, c'est le moins qu'on puisse dire, dans son autobiographie, il raconte qu'en 1962, quand il y a eu la fameuse rencontre Lac à l'épaule pour décider si oui ou non on faisait la nationalisation de l'électricité, il avait dit dans ses mémoires, il dit, vous savez, il dit, les politiciens, là, quand arrive une élection, là, c'est comme des chevaux à la porte là, qui sont prêts à y aller à fond.
On y va.
Et c'est comme ça que Jean Lesage avait convaincu les autres ministres de 1962 d'aller en élection là-dessus. Et parce qu'évidemment, bon, il y en a qui n'étaient pas contre, mais fondamentalement, le dénominateur commun de toutes les personnes qui font de la politique, c'est le plaisir de faire une campagne électorale. Alors oui, c'est agréable, beaucoup de rencontres, beaucoup de discussions avec les citoyens, puis c'est ça qui est intéressant.
On vous dit quoi sur le terrain, là?
Bien, c'est sûr qu'on est très préoccupé par ce qui se passe avec l'habitation, par ce qui se passe avec ce qu'on appelle, j'aime pas le mot, là, affordabilité, là, c'est-à-dire que l'argent qu'on a moins dans nos poches, puis ça touche tout le monde. Ouais. Trump, pas Trump, ça existe. Bien sûr, il y a Trump dans le paysage, mais fondamentalement, des jeunes couples qui veulent acheter une première maison, puis qui sont pas capables, des gens qui ont des familles qui ont deux emplois, qui gagnent bien leur vie, mais qui en arrachent actuellement pour faire juste le marché toutes les semaines, puis qui visent toujours sur la prochaine paye. Ça, c'est la réalité auxquelles des gens sont confrontés. Puis, faut le dire aussi, on est à Québec, on est quand même pas si pire que ça, mais la criminalité fait partie des discussions aussi. Il y a une augmentation partout au Canada, puis ça, c'est une préoccupation dont on entend parler.
J'aime ce que vous dites. Est-ce qu'on en a justement pas assez parlé de ces enjeux-là plus terrain dans la campagne électorale? Tu sais, la campagne restait sur les grands thèmes, les fameux tarifs, Donald Trump, l'économie, mais en général, on n'a pas beaucoup parlé de ça, du citoyen qui a moins d'argent dans ses poches.
C'est ça qui est un peu dommage, mais d'un autre côté, chaque jour qu'amenait la campagne électorale, M. Poilievre, tous les matins, faisait un point de presse où il annonçait un engagement qui n'était pas directement lié aux événements des États-Unis, parce que, justement, les gens sont touchés par ça. Alors, à tous les jours, on le fait, et à tous les jours, on répondait aux questions systématiquement par rapport à ça. Ça, c'est sur la scène nationale. Quand il y avait de quoi qui se passait avec Trump, tout de suite, on réagissait. Quand Trump a annoncé sa première vague horrible de taxes et tout ça, d'augmentation de tarifs, notre chef était en ville. M. Poilievre était à Québec. Il fallait qu'on tasse d'une heure notre rassemblement. C'était pas évident, ça.
Moi, j'étais au rassemblement, puis justement, il y avait le délai d'attendre. Voilà.
Alors oui, c'est sûr qu'on fait ça, mais quand on rencontre les citoyens, quand on fait du porte-à-porte, quand on écoute les gens, ces préoccupations-là sont là. Puis nous, on a offert un florilège de suggestions par rapport à ça, entre autres abolir la TPS pour l'achat d'une première maison. Également, avoir des mesures de contrôler les dépenses. Parce que quand tu ne contrôles pas les dépenses puis tu vis au-dessus de tes moyens, tu génères de l'inflation. Et c'est ça, c'est le premier ingrédient de l'inflation. Puis quand tu dis inflation, mais tu dis augmentation des prix et moins d'argent dans tes poches. Et nous, ce qu'on veut, c'est laisser, en moyenne, en baissant l'impôt général, ça fait 1 800 $ de plus pour une famille de la classe moyenne avec deux enfants. C'est pas de la petite monnaie, là. C'est de l'argent direct plus dans vos poches.
Monsieur Deltel, vous avez parlé de logement, vous avez parlé du premier achat, un couple, je pense à nos enfants, oui. mes enfants qui vont avoir à acheter une première propriété éventuellement. Et dans le cadre financier du Parti conservateur du Canada, il y a le mot justement « bâtir oui. » avec un B majuscule. Oui. Important pour la région de Québec, important aussi pour le Canada d'un océan à l'autre?
C'est essentiel. C'est l'enjeu principal des familles, c'est l'enjeu principal des Canadiens actuellement, c'est-à-dire que le rêve canadien, comme on le répète trop souvent malheureusement, parce que ça semble malheureusement pas être rentré dans la tête de nos adversaires, c'est justement de pouvoir partir modestement et d'accomplir des grandes choses quand tu travailles fort. Moi, personnellement, mes parents sont des immigrants, sont arrivés ici en 1958, ils ont choisi le Canada les ont choisis. Et l'espoir d'une vie meilleure s'est accompli parce que, justement, le Canada est un pays responsable à cette époque-là. Et pour la construction de maisons, on a trois axes principaux. Dans le premier temps, comme je vous ai dit tantôt, on abolit la TPS pour l'achat d'une nouvelle maison, d'une nouvelle propriété. Et ça va créer plus de portes, disons ça comme ça. Oui. Et plus de portes signifie plus d'accessibilité. Donc, on estime qu'il peut y avoir une baisse du prix des maisons parce que tu as plus d'offres sur le marché. Dans un deuxième temps, des incitatifs pour les villes pour aller de l'avant avec accélérer la construction. On sait que les frais d'aménagement, c'est-à-dire que, tu sais, quand une ville ouvre une nouvelle rue, ça coûte très cher. Et on comprend ça, là, c'est normal, ça va de soi. Bien, notre gouvernement est prêt à soutenir les villes dans la mesure où des objectifs de nouveaux logements sont faits, jusqu'à 50 % des frais d'aménagement. Et ça, bien, ça peut baisser justement le prix d'une maison, le prix d'un logement, le prix d'un condo, parce que ça permet au gouvernement d'inciter les villes à aller plus vite, à aller en faire plus et en faire mieux, et aussi de réduire la facture pour l'acheteur. Et troisièmement, vous savez qu'à Québec, actuellement, on a un extraordinaire potentiel de développement de résidences, et c'est les terres fédérales. Les terres fédérales, c'est quoi? C'est que, vous savez, derrière Place Laurier, parlons clairement, ouais. derrière Place Laurier, vous avez un secteur qui était fédéral.
Oui, qui était un ancien quartier militaire.
Exactement ouais, ça. Ouais, ouais. Ça appartient au fédéral. Et à Québec, on a un consensus depuis des années pour que ce terrain-là soit maintenant sous l'égide des Premières Nations. Puis qui dit Premières Nations dans la région de Québec? C'est les Wendat. Ça fait plus de 5 ans qu'on est prêt à construire du logement qui, oui, pour les Premières Nations, mais également pour les Allochtones, qui, oui, va également pour les anciens combattants. Un projet magnifique qui a été développé et déployé par les Wendat, et malheureusement, le gouvernement libéral, M. Duclos, quand il était ministre, malheureusement, n'a pas donné l'élan nécessaire dont on a besoin pour ça. Et ça, c'est triste. Il y a eu un reportage à Radio-Canada en fin de semaine qui mettait en lumière ce retard-là, mais ça, c'est un potentiel qui dort actuellement à Québec. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est accélérer ça. On a le consensus à Québec pour que ce soit les Wendat sous l'égide des Wendat que ça se fasse. Et quand on voit ce que les Wendat font à Wendake, imaginez une prise 2 avec ce qui va se faire ici dans les terres près de Place Laurier. C'est extraordinaire comme projet, mais malheureusement, ça tarde.
Pour une petite anecdote familiale, ma mère habitait dans ce quartier militaire-là.
Ah, oui.
Ben oui, mon grand-père était un militaire, donc il a habité là-bas.
Ah, je connais ce genre de quartier-là. J'ai grandi ces bases militaires. Mon père était un ancien des Forces armées canadiennes.
Mon Dieu, bon sang, ne serait menti. Félicitations.
Et voilà.
Bravo, merci à vous.
Je vous amène sur le terrain de votre adversaire, vos adversaires, les libéraux, qui hier, Mark Carney fait une sortie pour dire il n'est pas question qu'on reconnaisse les deux votes à l'unanimité à l'Assemblée nationale pris par les partis, c'est-à-dire favoriser la nomination des juges, impliquer le Québec et également on ne donnera pas 800 millions de dollars aux Québécois pour la taxe carbone. Si un gouvernement conservateur est élu, est-ce qu'on y va de l'avant avec le Québec?
Alors, concernant la question des juges, on est prêt à discuter avec le gouvernement du Québec pour voir comment on peut s'entendre parce que c'est clair que ultimement c'est le gouvernement fédéral qui décide, c'est qui juge. Comme nous, on ne va pas dire, bien, on aimerait ça se mêler de ce qui... C'est nous qui allons nommer les juges provinciaux ou encore les juges des tribunaux provinciaux. Alors, ça va de soi qu'on, nous, on est ouvert à la conversation et non pas à la porte fermée puis on claque la porte d'en face. Concernant la taxe sur le carbone, vous savez que c'est une invention de toute pièce du gouvernement libéral qui ont créé ça il y a 9 ans de ça, en fait, qui ont lancé ça il y a 9 ans puis ils l'ont créé il y a 7 ans. Et puis que là, tout à coup, boum, 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 après nous avoir insultés, nous, on était toujours pour l'abolition de la taxe sur le carbone parce qu'on trouve que c'est pas ça qui va faire réduire la pollution, mais bien plutôt réduire votre porte-monnaie parce que vous avez moins d'argent dans vos poches. Alors, c'est pour ça que nous, ce qu'on dit, c'est les libéraux qui ont créé le problème, puis c'est leur problème, eux, à régler avec le Québec. C'est pas nous autres qui avons imposé la taxe sur le carbone, c'est eux autres qui l'ont imposé. L'autre chose, par exemple, nous, on respecte les champs de compétences. Et si le Québec choisit d'avoir ce que l'on appelle la bourse du carbone. C'est leur choix et c'est leur décision. Ça fait quoi, une douzaine d'années que ça existe, que c'est en fonction? Et ça prête au débat. Et c'est normal. C'est ça la démocratie. Mm-hmm. D'aucuns auront constaté aussi que quand vous avez une bourse du carbone, ben il faut être pas mal plus que deux ou trois pour danser. Et ça en prend beaucoup. Si tous les 50 États et les 10 provinces étaient membres de la bourse du carbone, on n'aurait pas la même conversation. Mais certaines études ont conclu que c'est des dizaines de millions de dollars qui fuient le Québec parce que c'est une bourse du carbone, t'achètes des crédits de verre, ça s'en va en Californie. Le débat public peut se faire aussi sur le fait, ben ça te tente-tu aux Québécois de subventionner la Californie, aux dernières nouvelles, pas exactement un pays du tiers-monde? Ouais. Alors, ben, réfléchissons à ça. Mais ça, ça fait partie du débat provincial. Puis comme je vous ai dit, j'en ai assez de mes problèmes au fédéral. Ouais, ça m'a invité dans les débats du
on province. A Éric Duhaime qui s'en vient après. Fait qu'on parlera de ça avec lui.
On va parler provincial avec Éric.
Je présume son propos.
Moi ouais, aussi, je le présume, mais on va lui poser la question quand même.
Oui, saluer chaleureusement de ma part.
Monsieur Deltel, une question en deux parties sur votre cadre financier. Oui. De un, on a critiqué le fait qu'il est arrivé assez tard dans le processus de la campagne. Ouais. Et deuxième partie, à quel point votre cadre financier est réaliste et réalisable dans le contexte que vous êtes au pouvoir et on se reparle dans 2-3 ans. Mm-hmm. Est-ce qu'on va pouvoir, de façon réaliste, cocher des choses que vous avez réalisées dans ce cadre financier?
C'est ce qu'on veut faire, puis c'est ce qu'on va faire parce qu'on l'a fait approuver par des gens qui ont l'expérience nécessaire pour aller de l'avant puis que nos chiffres se tiennent. Alors, dans un premier temps, pourquoi est-ce qu'on l'a fait cette semaine? Vous savez qu'on l'ait fait samedi de Pâques comme les libéraux en plein milieu du congé pascal ou qu'on l'ait fait 2 jours après. Sincèrement, ça ne change pas, d'autant plus qu'à tous les jours, on faisait une annonce qui était chiffrée, donc essentiellement à quelques détails près, tout ce qui était là-dedans avait déjà été pas mal annoncé. Alors, nous, on fait une approche qui est pragmatique. On a vu pendant 10 ans de temps c'est quoi le dogmatisme de gauche avec le Parti libéral qui est maintenu avec M. Carney qui dépense plus que Justin Trudeau qui lui crut. Je veux dire, le prestigieux banquier de qualité mondiale finalement fait pire que le gars qui est professeur de théâtre. En tout cas, alors nous ce qu'on a c'est que oui en effet on veut baisser les taxes et les impôts de façon substantielle avec comme je vous disais tout à l'heure des abolitions de taxes et aussi des baisses d'impôts pour 1 800 $ pour une famille de classe moyenne, mais on veut également investir, entre autres, dans la défense qui en a vraiment besoin. Donc, c'est autant d'argent qu'on va injecter dans l'économie, mais également, on a un programme de compression qui est direct. Et quand je vous disais qu'on était pragmatique et non dogmatique, c'est que nous, on prévoit malheureusement, encore une fois, un déficit à la 4e année. Alors, on aurait très bien pu sortir la CHN puis faire plus de dégâts qu'autre chose, mais non. Parce qu'on veut préserver ce qui existe au Canada et pas faire de dégâts, c'est justement de savoir qu'on réduit le déficit de façon substantielle, mais on en a un au 4e année.
Je vois beaucoup passer sur les réseaux sociaux de la part de gens de mon âge, fait que début vingtaine jusqu'à mi-vingtaine, des appels au vote stratégiques pour les libéraux contre les conservateurs, avec des genres de campagnes de « les conservateurs vont retirer le droit à l'avortement ». J'imagine que c'est une question que vous avez beaucoup abordée depuis des années et des années et des années. Est-ce que ça devient tannant de toujours devoir clarifier la position des conservateurs sur l'avortement? Parce que là, on dit, bon, le chef a déjà dit ça, mais là, il dit qu'il ne touchera pas. Mais là, est-ce qu'on peut vraiment le croire? À quel point c'est un dossier qui est lourd à porter pour des candidats conservateurs?
Alors, quand on était au gouvernement, jamais quelques lois que ce soit ont été passées au règlement sur l'avortement. Nommez-moi une femme qui n'a pas pu se faire avorter alors qu'on était au gouvernement. Fait que le reste, c'est des chimères, c'est de la saloperie de bas étage. Je pèse mes mots parce que c'est du salissage pur et simple. Nous avons pris une position. D'ailleurs, c'est écrit depuis 20 ans dans notre programme électoral qu'on ne touchera pas à ça. Point final. Mais de voir que M. Carney, avec tout son prestige de banquier et de premier ministre, qui lui-même soulève la question, c'est déshonorant. D'aucuns pourraient voir dans cette approche-là le fait qu'en effet, ça se resserre beaucoup entre nous autres et eux autres. Puis là, il appuie sur le bouton de la panique. Mais sur cet enjeu-là, je peux vous le dire que jamais on fera quelque chose par rapport à ça. Comme d'ailleurs, ça a été fait pendant 10 ans de temps. Mais quand l'adversaire soulève cette question-là, c'est la preuve qui est dans le trou.
On est à 3 jours de l'élection. Il y a déjà 7,3 millions de Canadiens qui ont voté. Je suis vraiment content de ça parce que je m'attends à une participation record. comment qu'on fait tourner le vent en sa faveur pour le Parti conservateur dans ces trois journées de campagne-là?
D'abord, sur le vote par anticipation, il faut comprendre que c'est la première fois que c'est 4 jours. Hein. Normalement,
oui, c'est vrai.
Trois jours, c'est 4 jours. Et 4 jours dans un congé férié. Alors là, c'est 1, 2, 3, 4 en ligne où la plupart des gens qui sont sur le marché du travail, plusieurs, pas tout le monde, mais plusieurs étaient en congé. Donc déjà, ça sollicitait ça. Il faisait pas mauvais non plus en fin de semaine. C'est agréable de sortir puis d'aller voter. Et j'ai rencontré plein de monde justement à cette occasion-là. Alors, ce qu'il faut, c'est que se poser la question. Est-ce que ça nous tente de continuer pendant 10 ans de temps, pendant les 4 prochaines années, avec les mêmes politiques qui ont été inflationnistes puis qui ont été mauvaises? Les libéraux ont déposé leur plateforme qui fait 130 milliards de nouvelles dépenses. Puis comme je disais tantôt, M. Carney fait pire que Justin Trudeau, qui l'eût cru en matière de dépenses et de non-contrôle. Est-ce que ça vous tente de continuer ou d'avoir un vrai gouvernement conservateur qui va vous donner plus d'argent dans vos poches, qui va baisser les taxes et les impôts? Ça, ça touche directement les gens. Dans la région de Québec, ça va bien. Et soyons aussi très objectifs, il y a des belles luttes à trois qui s'avèrent rudement intéressantes.
Oui, Beauport, Limoilou,
Montmorency-Charlevoix. Nous avons de très bons candidats qui font de très bonnes campagnes terrain. Et puis, probable que M. Poilievre soit en ville aujourd'hui.
Oh! OK, c'est à noter.
Oui,
merci.
Vous m'enverrez un petit texto, je vais aller le rencontrer.
Monsieur Gérard Deltel du Parti conservateur du Canada, merci infiniment d'être passé nous voir. On vous souhaite un bon dernier blitz de campagne électorale.
Et à tous ceux qui nous écoutent, merci bien et allez voter.
À bientôt. Max, circulation, excuse-moi.
Oui, puis c'est un point chaud, fait qu'il est important de le mentionner. Il y a un accrochage en Rive-Sud entre Sainte-Geneviève et l'avenue Chauveau, la voie de gauche qui est partiellement entravée.
Merci, Max.